France Culture, il est 21h, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur l'imaginaire. Une heure pour s'évader grâce au feuilleton, s'émerveiller avec l'instant poésie et plonger dans lecture du soir.
1975.
Éveillé par crème matinale, votre peau est prête pour une nouvelle journée.
Très belle. J'aime bien danser avec une blonde comme toi, blonde à croquer.
On essaye de nous faire ressembler à des bonnes femmes qui n'existent pas.
Le beau divorce, une série en 5 épisodes de Victoria Cario.
Qu'est-ce qu'être femme ?
Qu'est-ce qu'être une femme ?
Très contente d'être une femme, surtout en 1975.
Pourquoi 1975 ?
Parce qu'il y a des tas de possibilités que je n'aurais pas eues il y a un siècle, par exemple, ou deux.
Molière était catégorique. Du côté de la barbe, elle a toute puissance.
Voltaire disait avoir vu des femmes guerrières, des femmes savantes, mais jamais d'inventrices.
La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants.
Mon œil.
C'est Napoléon qui l'a écrit.
Mais Madame de Staël a aussi écrit que Napoléon était un con.
Madame, est-ce que cette réforme du divorce vous apparaissait comme nécessaire ?
Indispensable, oui.
Tout le monde est absolument d'accord sur la réforme du divorce par consentement mutuel.
Un mariage sur 8 se termine par un divorce. C'est ce qui explique sans doute que 51% des Français soient favorables à une procédure plus facile. Le Parlement en décidera lors de sa prochaine session au printemps prochain. Il aura à se prononcer sur un projet de loi qui prévoit 3 types de divorce. Le plus simple, par consentement mutuel, c'est la constatation de l'échec du mariage. Le second, en vigueur actuellement sous cette forme, le divorce sanction, lorsque l'un des époux arrive avec un ensemble de faits qui rendent la vie commune intolérable. Mais l'adultère, là, ne sera plus sanctionné. Cette nouvelle législation devrait mettre fin à la comédie qui était jusqu'alors la procédure du divorce.
Musique originale, Julien Noël et Étienne Bonhomme. Réalisation, Louise Loubrieux. Épisode 4. Vous entendez ce pas jovial, dynamique? Pas vraiment, non? C'est celui de Maître Jousse, l'avocat de Gilles, le mari de Mado, notre héroïne. Maître Jousse porte des semelles de crêpes. Soyons honnêtes, c'est récent. Jusqu'il y a peu, il portait des chaussures de ville qui résonnaient fièrement sur le pavé parisien. Mais depuis son divorce d'avec sa femme, l'autre Maître Jousse, notre Maître Jousse n'a plus de cabinet. Alors de plus en plus souvent, il consulte à domicile.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, bienvenue au laboratoire Sanifou.
J'ai à m'entretenir avec monsieur Soubry.
C'est à quel sujet ?
L'heureux cérémonie de divorce.
Pardon monsieur, je ne comprends pas.
Vous savez bien, une séparation légale.
Quoi de légal ?
Un divorce.
Oh ! Monsieur Soubry divorce ? Ça alors ? Je n'arrive pas à le croire. Tu as entendu Christine ? Monsieur Soubry divorce !
Maître Jousse, son avocat.
Monsieur Soubry ? Maître Jousse est en bas. Je le fais monter ? Vous pouvez monter.
Merci.
Pour donner suite à nos échanges au sujet de notre situation, il me semble que notre histoire maritale prenne fin. Je te fais donc part officiellement de ma volonté de divorcer. Cette volonté me semble réciproque. Non mais vous vous rendez compte ? Cette volonté me semble réciproque ?
Poursuivez.
Ainsi, j'espère que tu accepteras ma demande de divorce par consentement mutuel. Cela nous permettra d'éviter des procédures lourdes et difficiles à vivre. Elle se fout de moi !
Oh ! Belle écriture.
Je ne sais pas si vous avez bien compris. J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un. Sous mon toit, en plus, et devant mon fils. Devant mon fils, vous vous rendez compte ?
Oui, je comprends que vous soyez fâché.
Fâché ? Je suis hors de moi. Elle ne m'a rien dit pour que j'accepte le consentement mutuel. Elle m'a pris pour le dernier des idiots. Cette volonté me semble réciproque. Vous voyez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, tu vas être bien gentil et faire comme si toi aussi tu voulais divorcer pour que je puisse me mettre avec mon amant bien gentiment, sans rien devoir à personne. Non mais vous vous rendez compte ? Pour un vrai con !
C'est assez commun, vous savez. ma femme, enfin, mon ex-femme, elle-même...
Je me fiche de vos déboires. On parle des miens, de moi, de ma femme qui me trompe et qui me prend pour un bonnet. Mais je ne vais pas me laisser faire. Oh non, on va l'attaquer.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par l'attaquer ?
Vous êtes vraiment mauvais, mon pauvre vieux. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'accepter le consentement mutuel. Elle qui voulait un bel arrangement, bien gentil, elle ne l'aura pas. On va faire ça à l'ancienne, avec humiliation, preuve de sa faute. Elle n'aura pas un sou et pas question qu'elle revoie Thomas.
Priver un enfant de sa mère, c'est un peu fort.
Elle l'a exposé à sa débauche. Non mais c'est d'une inconscience. Le petit n'a pas l'air, mais il est traumatisé. Ça ne va pas se passer comme ça, croyez-moi. Elle va payer. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un con. Elle me l'aurait dit, j'aurais compris. Mais là, dans mon dos...
Petite question. De votre côté, vous vivez toujours chez votre... Comment vous l'appelez déjà ? Oui, votre bonne amie...
Nicole ? Non ! Marre de me faire bourrer le crâne par le MLF. Merci bien, je suis chez un ami.
Au moins, vous êtes bien entouré. Et c'est très important dans ce genre de...
Entouré d'idiots, oui. Et Lio est un con. Un ami de toujours, mais un vrai con. Je peux vous dire que c'est la double peine. Bon, on l'a rédige cette requête au juge ? J'ai pas que ça à faire, moi.
Vous ne préférez pas commencer par une réponse à votre femme ? Enfin, en passant par son avocate, Maître Bloch. Il se trouve que je la connais.
Ah oui ? Elle est comment ?
Dure en affaires, mais humaine.
À quoi ça servirait ?
À adoucir les choses. Trouver un arrangement, peut-être.
Un arrangement ? Et puis quoi encore ? Pas question.
Bon... Allons-y pour la requête. Mais je vous rappelle que le divorce par faute est une épreuve et que vous n'êtes pas blanc comme neige.
Voici de quoi écrire.
Allons-y.
Excuse-moi Simon, je suis en retard.
Ah. Paul, je te présente. Mado, Mado, Paul.
Enchanté.
Enchanté.
Mado, tu veux bien t'installer à une table un peu plus loin ? Je te rejoins tout de suite.
Oui, bien sûr. Comme ça, je relirai mes notes.
Simon, tu vois où je veux en venir, non ?
Bon, merci, Paul. J'ai compris. On s'en reparle, hein ?
Ah.
Oh.
Bah, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air tout drôle.
Mauvaise nouvelle. Le film ne se fait pas.
C'est pas vrai ?
Si !
Je suis désolée, que s'est-il passé ?
J'aurais dû m'en douter. Le producteur, c'est l'adaptation. Ça ne lui plaît pas, mais alors pas du tout.
C'est dommage. J'allais justement te proposer des modifications dans la trame pour aller dans le sens que tu voulais.
Oh, ne retourne pas le couteau dans la plaie.
Je suis vraiment désolée. Tu dois être...
Dévastée. Je suis dévastée. Tu vois le fond du puits ? C'est là que je suis.
Qu'est-ce que tu vas faire alors ?
Qu'est-ce que tu veux ? Je vais faire ce que mon chef me dit. Je vais travailler tout seul et écrire encore une histoire intimiste sur ma vie à moi. Enfin, si tu savais comme je n'en peux plus.
Ah, tu vas travailler tout seul ?
Oui, je n'ai pas le choix. En plus, il faut que je m'y mette tout de suite, même pas le temps de souffler. Parce que monsieur veut que je lui livre le scénario dans 3 mois. Je suis un esclave, voilà. Un esclave du système. Une pauvre marionnette.
Mais non, Simon. Tu fais ce que tu peux.
Qu'est-ce que je suis déçu.
Moi aussi. Et comment ça se passe pour le paiement dans ces cas-là ?
De quel paiement tu parles ?
Bah, du mien. Pour le travail que j'ai fait depuis 1 mois, enfin un peu plus, 2 mois presque.
Mado, je ne sais pas si tu as compris, mais le film ne va pas se faire. Tes recherches n'auront servi à rien. Je ne vais pas les utiliser, je repars à zéro.
Oui, mais j'ai quand même travaillé.
Je ne comprends pas où tu veux en venir.
Tu m'avais dit que je serais payée. Tu as dit que je serais payée 35 000.
Mais tu veux que je te paye 35 000 balles pour rien ?
Pas pour rien ! Mais j'ai travaillé, j'ai passé du temps, je...
Écoute, Mado, je ne sais pas quoi te dire. En fait, je suis un peu étonnée, là.
Mais de quoi ?
Je ne pensais pas que tu faisais ça pour l'argent.
Non, mais...
Écoute, j'étais content de te revoir, de te retrouver, de ce qui renaissait entre nous, de te mettre le pied à l'étrier aussi, mais je ne pensais pas que de ton côté, c'était vénal. Je ne te voyais pas comme ça, en fait.
Non, mais c'est juste que j'ai particulièrement besoin d'argent en ce moment. J'ai un pépin avec mon permis, enfin, je dois payer des réparations assez lourdes.
Mado, ma chérie, si tu as besoin d'argent, je peux t'en donner. Mais je préfère ne pas mélanger ça avec l'artistique. Tu vaux mieux que ça, et je vaux mieux que ça.
Excuse-moi, Simon, mais je vais y aller.
Déjà ? Bon, on se voit toujours ce soir.
Qu'est-ce qui t'a pris? Les visiteurs médicaux n'y sont pour rien, tu leur as hurlé dessus.
Ce n'est qu'une bande d'imbéciles. Une bande de cons.
Calme-toi, on va prendre un café, hein?
Mon idiote.
Je croyais que tu avais arrêté.
Au point où j'en suis? Tu te rends compte qu'elle me trompe?
Vous êtes séparés. Écoute, et puis tu n'es sûr de rien. Enfin, Thomas a pu se tromper, ce n'est qu'un gosse.
Avec un artiste en plus. C'est Thomas qui me l'a dit. Un connard d'artiste de mes deux.
Pas la peine d'être vulgaire.
Je suis effondré.
Je vois.
Non, tu ne vois pas. Tu n'as pas idée. À l'intérieur,
je vois tout à fait. Je te rappelle que moi aussi, je me suis séparée.
Oui, mais toi, ce n'est pas pareil. Tu savais, pardonne-moi l'expression, tu savais que ton mari était un salaud. Mais Mado...
Quoi, Mado?
Mado, je n'arrive pas à le croire.
Eh bien, ne le crois pas. Attends d'être sûr avant de te mettre dans cet état.
Mais non, il n'y a rien à faire, c'est fini, je suis humiliée.
Oh, vous êtes chiants, les mecs, avec vos petits sentiments minables et égoïstes, humiliés. Oh là là, le pauvre monsieur, il est humilié. C'est terrible. Tu préfères pleurer sur ton sort plutôt que de te battre. Elle s'était battue pour te garder quand tu l'as trompée. Souviens-toi de sa réaction. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour te comprendre. Toi, tu es pathétique.
Garçon, un double scotch.
Comme si ça allait arranger les choses, franchement.
Ah, Madame Soubry, vous voilà enfin. Mais que s'est-il donc passé? J'ai reçu un appel de Maître Jousse.
Maître Jousse?
Oui, l'avocat de monsieur.
Monsieur a un avocat?
Oh là là, il va falloir redescendre sur terre, madame, hein. On se réveille, monsieur est au courant.
Mais au courant de quoi? Enfin, je ne comprends rien.
Oh, ne jouez pas les innocentes, hein. Pas avec moi. Vous auriez dû me dire que vous aviez quelqu'un. Comment vous défendre si je n'ai en main que la moitié du dossier? Et puis mêlez le petit à vos ébats, c'est une grave erreur.
Non mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, ça devient...
Votre amant, monsieur, est au courant.
Mais je n'ai pas d'amant, enfin, c'est absurde.
Ce monsieur qui travaille dans le cinéma, qui vient chez vous le soir et que votre fils a rencontré, ce n'est pas votre amant peut-être?
Simon? Mais non, enfin pas du tout. Ce n'est pas mon amant, on travaille ensemble. Enfin, qui a pu dire une chose pareille?
Le petit, à monsieur.
Thomas? Oh mon Dieu, il a cru.
C'est-à-dire que vous lui avez donné des raisons, Madame Soubry. Franchement, quelle idée de recevoir un type, artiste en plus, chez vous, le soir, alors que vous êtes en pleine procédure de divorce. C'est tout bonnement du suicide.
Mais c'est absurde, enfin, Simon et moi, on travaillait.
Eh bien, j'espère qu'il vous paye bien, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Monsieur demande un divorce à vos torts exclusifs. Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'aurez pas de pension, rien. Et il veut aussi la garde exclusive du petit.
Oh mon Dieu.
On peut dire que vous avez fait mouche. Et vous qui rêviez d'un beau divorce.
Je vais aller parler à Gilles. Je vais lui expliquer. Thomas s'est trompé, c'est un enfant, il s'est imaginé.
S'il vous plaît, à partir de maintenant, vous me laissez faire. Dans votre malheur, vous avez de la chance. Je connais très bien Maître Jousse. C'est un bon bougre. Maintenant, je ne vous demande qu'une chose. Évitez à tout prix de voir monsieur dans les prochains jours.
Mais...
Chut! Pendant que Maître Jousse et moi, nous tirerons les ficelles en coulisses. Vous promettez? Pas un appel, pas un mot à monsieur, n'est-ce pas? Allez, vous réglerez les honoraires à ma secrétaire.
Taxi? Emmenez-moi à Villa d'Alésia, dans le 14e.
Donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais ton avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là, pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole.
Vous m'attendez un instant, j'ai quelque chose à récupérer. Merci. Déposez-moi devant la première boutique de rachat d'or que vous verrez. Combien vous me donnez pour cette bague ? Voilà votre argent. Je peux conduire maintenant ?
Bah le compte y est. Bravo ma petite dame.
Rétro, contact. Aujourd'hui, on va sur l'autoroute. Je veux faire de la vitesse.
On s'arrête au PMU. C'est mon jour de...
Ah non, ça suffit comme ça, le PMU, j'en ai ma claque. Vous allez m'apprendre à conduire et puis c'est tout.
Ouh, elle est énervée aujourd'hui, la petite dame.
Et puis arrêtez de m'appeler ma petite dame. Appelez-moi Madame Grossman, c'est mon nom à partir de maintenant. Je reprends mon nom de jeune fille, mettez-vous ça dans le crâne. Et ça mérite le respect parce que, croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir, le divorce. Ah non ! La liberté a un prix, oui ! Ne croyez pas ce que vous lisez dans les journaux, hein, cette soi-disant simplification du divorce, tu parles. Les hommes restent des hommes attachés à leurs privilèges. Et puis, alors, l'égalité entre hommes et femmes, alors ça, on peut se le mettre où je pense, hein. Une bonne blague, ouais. Monsieur trompe madame ? Oh bah, pas de problème. Mais madame ose vivre librement, sans rien faire de mal en plus, alors là, forcément elle est coupable, forcément elle a un amant. Et Simon qui m'a prise pour la dernière des idiotes, il voulait me mettre dans son lit, oui. Ce que j'ai pu être cruche. Il y a Bécassine et Yaman, on fait la paire toutes les deux, ça. Je tourne à droite.
Oui.
Vous voulez que je vous dise ? Mmh. Il ne faut jamais compter sur les hommes, jamais. Reste sur le côté ou barbe en bataille, tous les mêmes dans le slip. Mais vous savez quoi ? C'est très bien comme ça. Ah, je me fiche de son film à la noix de coco, je vais trouver un travail, un vrai, et je vais reprendre mes études aussi. Comme ça, je ne compterai que sur moi. Ça, personne ne m'en empêchera, personne. Qu'est-ce que je fais maintenant ?
Bah, vous pouvez vous garer ici.
Alors, on peut dire que vous êtes prête.
À quoi ?
À passer votre permis. Elle est plus que prête.
Votre copine n'est pas là, mais je peux peut-être la remplacer, moi.
Non, mais ça va pas. Salopard ! Petit salopard !
Oh, ça va. Si on peut plus rigoler.
Eh bien, ma chérie, tu en as de l'énergie à revendre.
Annette, pardon, pardon. C'est toi qui avais raison.
Allez, viens. Tu vas me raconter tout ça. Pire que ce que je pensais.
Tu te rends compte ?
Et dire qu'on est en 1975 ? Vive l'année de la femme !
Vive l'année de la vache, oui. Anne-Sylvestre a bien raison. Bon, si tu veux quand même travailler avec Simon, je comprendrai.
Hein ? Avec cet escroc ? Pas question. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
Trimer, trouver un vrai travail pour payer le divorce et un appartement, et me battre pour la garde de mon fils, trimer.
Vive la liberté, hein.
Tu sais, Annette, je ne regrette pas.
Je craignais de t'avoir trop poussée à divorcer.
Ah non ! Non, tu as eu raison. C'était fini, j'étais malheureuse, faible. Maintenant, je suis toujours aussi malheureuse, mais au moins, je me sens forte.
La colère te donne des ailes.
Tu sais que je vais finir par l'avoir, mon permis.
Tu continues les leçons ?
Mmh.
En plus du reste ?
Mais oui, j'ai même réussi à payer les réparations.
Quelles réparations ?
Bah, tu ne te souviens pas ? L'accident, quand je suis rentrée dans une voiture en voyant Gilles et sa maîtresse.
Mais ma chérie, ce n'est pas à toi de les payer.
Comment ça ?
Enfin ! C'est la voiture de l'auto-école. C'est eux qui sont responsables, ils ont des assurances. Tu penses bien que tu n'es pas la première à emboutir une voiture.
Mais alors, Serge a... Oh, oh quelle cruche ! Mais quelle cruche ! Mais évidemment ! Oh, excuse-moi, il faut que j'y aille.
Je t'accompagne. Laisse-moi faire. Serge de l'auto-école ? Inspecteur Bobinette.
Police judiciaire.
Mais qu'est-ce que...
La petite dame qui m'accompagne, vous la connaissez? Elle m'a appris que vous lui aviez extorqué 25 000 francs. Arnaque à l'assurance. Vous savez combien ça va chercher? Vous allez me faire le plaisir de lui rendre tout de suite son argent.
Je peux voir votre carte de flic?
Ma carte de flic? Vous me demandez ça parce que je suis une femme? Une inspectrice de police, ça vous étonne, hein? Vous seriez non seulement un escroc, mais aussi un sacré misogyne.
Non, c'est juste que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas habitué.
Outrage à agent, vous connaissez?
Pardon, madame l'inspectrice.
Très bien. Je fais comme si je n'avais pas entendu. Madame Grossman, venez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit à la dame?
Et pas la petite dame.
Je m'excuse.
Je m'excuse?
Je m'excuse, madame.
Eh bien voilà, on y arrive.
Vous direz rien à mon patron. Vous savez que c'est pas un tendre.
Non mais vous rêvez, vous? Te voilà riche. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent?
J'ai quelque chose d'important à récupérer, s'il n'est pas trop tard.
Taxi!
Bientôt, ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles. Mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai abattue, courbattue, combattue. Mais je serai venue. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive. Je te laisse mon lit.
Il y a quelqu'un?
Je suis là.
Tu n'es pas au bureau?
On m'a dit de rentrer. Je suis mal, apparemment.
C'est vrai que tu n'as pas l'air très bien. Tu as bu?
Peut-être.
Tu ne supportes pas l'alcool. Je vais te faire une tisane.
Ce que tu m'as fait, c'est atroce.
Mais qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu? Je n'ai pas d'amant, je te le promets. Et si tu veux me retirer la garde de Thomas, sache que je vais me battre. Il n'en est pas question.
Et toi? Pourquoi tu es ici?
Je suis passée chercher une robe de soirée.
Tu vas fêter quelque chose, j'imagine? Tu te fiances? C'est le bon moment pour le coup de grâce.
Mais non, je vais travailler pour Annette. C'est ta mère?
C'est possible.
Oui?
C'est Simon. Où?
Va-t'en, je ne veux pas te parler.
Ouvre, j'ai dit.
Fiche le camp tout de suite.
Qui est-ce? Je ne partirai pas, Mado. Tu m'entends?
Enfin, Mado, il faut lui ouvrir à ce pauvre homme.
Non, mais enfin, ne me pousse pas.
Ah! Bonjour, vous êtes monsieur.
Non mais ça va pas la tête, Simon? On ne rentre pas de force chez les gens, enfin! Et toi, Gilles? Bon, puisque c'est comme ça, j'en vais.
Attends! Je sais que tu es fâché, déçu, mais si tu veux de l'argent, j'en ai.
Je ne veux pas de ton argent.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui se...
On en écrira un autre, je te le promets.
Passe.
Non, on n'en écrira pas d'autre, tu t'es bien moqué de moi.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer?
Ce monsieur m'avait engagé pour écrire un scénario.
Je ne t'avais pas engagé, enfin...
Si! Tu m'as fait une proposition très claire et très concrète d'écrire ton prochain film avec moi.
Claire? Pas si claire.
Et on s'était mis d'accord pour une somme.
Oui, enfin, on avait parlé vaguement de...
Laissez-la parler, enfin.
Merci, Gilles. Mais je n'ai pas besoin que tu me défendes. Je me débrouille très bien toute seule. Pas vaguement du tout. Tu avais dit que tu me paierais 35 000 francs.
Belle somme.
Écoute, Mado, ce n'est pas ma faute si tu t'es fait des idées.
Moi, je me suis fait des idées? Qui m'a supplié à genoux de travailler pour lui devant tout le Select? Hein? Et qui m'attendait tous les matins comme un petit chien au café pour écrire parce que monsieur, à part parler de son petit nombril, n'a aucune idée? Et qui s'est invité ici à plusieurs reprises sans que j'aie rien demandé pour travailler jusqu'à pas d'heure alors que je n'en avais aucune envie et qu'il y avait mon fils, bon sang, à côté?
Tu n'en avais pas envie?
De travailler le soir? Chez moi? Avec un type collant? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois, Simon? Que j'acceptais pour tes beaux yeux? J'avais envie de travailler, rien d'autre que ça. C'est si difficile de comprendre pour vous qu'on n'a pas forcément une idée derrière la tête.
Mais le baiser, ce baiser...
Moi, je t'en prie, Simon. Il était forcé, tu le sais très bien. Et tes sérénades d'amour à la noix de coco, c'était franchement ridicule.
Monsieur, je crois qu'il est temps de...
C'est moi qui décide quand il partira.
Bien, bien.
Je suis...
Dévastée, c'est ça. Allez, ça suffit maintenant. Bon vent, camarade poète. Quel abruti, celui-là.
Tu as été...
Quoi encore? J'ai été quoi?
Magnifique.
À suivre. Le beau divorce. Une série en 5 épisodes de Victoria Carillo. Épisode 4. Avec Louise Auridi Quéro, Brice Hilleret, Clara Breteau, Bastien Bouillon, Quentin Bayot, Caroline Piette, Sophia Théier, Johanna Nizar, François Château. Et les voix de Roméo Mariani, Catel Donis et Selim Kérou. Musique originale, Julien Noël et Étienne Bonhomme. Consultant scénario, Thibaut Martin. Bruitage, Éléonore Malo. Prise de son, montage, mixage, Antoine Viossa, Maxime de Peretti de la Roca. Assistante à la réalisation, Céline Schaeffer. Réalisation, Louise Loubrieux. Victoria Cario a été lauréate de l'appel à projet Fonds Podcast Originaux France Culture SACD.
Et si nous prenions le temps d'écouter enfin celles et ceux qui parlent depuis si longtemps ?
Nora m'a dit.
Et si nous prenions le temps d'explorer les enjeux qui bousculent les territoires et imaginer ensemble des chemins possibles ? Douce France, c'est une heure pour raconter et rencontrer la France dans sa complexité, sa diversité, dans toutes ses nuances et au plus près des citoyens.
Douce France, chaque vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Découvrez 12 créations sonores originales.
Je t'aime.
12 variations de moins de 10 minutes sur le dialogue amoureux, conçu et mixé en son spatialisé par des étudiants en école de son. À écouter au casque pour tendre l'oreille aux créateurs de demain. 11 immersives, 12 variations sur le dialogue amoureux. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Rendez-vous aux Journées européennes de l'archéologie. Passionnés, simples, curieux, en famille, entre amis, les archéologues vous font découvrir les coulisses de leur métier partout en France, dans les centres de recherche, les villages de l'archéologie et sur les chantiers de fouilles. Une occasion unique pour mieux comprendre notre histoire et le travail de celles et ceux qui la révèlent. Les Journées européennes de l'archéologie, du 13 au 15 juin, partout en France. Un événement France Culture.
Vous écoutez France Culture, place à l'instant poésie.
Tous les soirs en semaine à 21h30, le chanteur et écrivain Gaël Faye partage avec vous son amour pour la poésie.
Alors, je voudrais vous présenter le poème « Charpentier de la fin du monde » d'Ocean Vuong, extrait du recueil « Le temps est une mer ». Donc, Ocean Vuong, c'est un jeune auteur américain d'origine vietnamienne. Donc, il est né en 88. J'ai envie de présenter ce poème parce que je ressens une nouvelle voix, belle, élégante, sensible et très moderne. Le poème est dit par Mathias Zakar et en anglais par William Nadilam.
In a field, after everything,
dans un champ, après tout ça,
a street lamp shining on a patch of grass,
un réverbère illumine un carré de gazon.
Having just come back to life, I lay down under its warmth and waited for a way.
Tout juste revenu à la vie, je me suis couché dans sa chaleur et j'ai attendu un chemin.
That's when the boy appeared, lying next to me.
C'est là qu'est apparu le garçon, reposant près de moi.
He was wearing a Ninja Turtle t-shirt from another era, the colors far away.
Il portait un t-shirt Tortue Ninja d'une autre époque, aux couleurs lointaines.
I recognized his eyes. Black buttons salvaged from the coat I used to cover my mother's face. At the end,
j'ai reconnu ses yeux. Boutons noirs, rescapés du manteau dont j'ai couvert le visage de ma mère. À la fin.
Why do you exist? I wanted to know.
Pourquoi existes-tu? Ai-je voulu savoir. Je sentais les grillons autour de nous sans pouvoir les entendre.
I felt the crickets around us, but couldn't hear them.
Une chapelle au dernier jour de la guerre.
A chapel on the last day of war.
C'est vous dire s'il était calme.
That's how quiet he was.
La ville d'où j'arrivais était petite et américaine. Si je restais à genoux, elle garderait tous mes secrets.
The town I had walked from was small. An American. If I stayed on my knees, it would keep all my secrets.
Quand nous avons entendu les bûcherons approcher, détruisant le passé pour bâtir l'avenir, le garçon s'est mis à pleurer.
But the voice.
Mais la voix.
The voice that came out.
La voix qui est sortie.
Was an old man.
Était celle d'un vieil homme.
I reached into my pocket, but the gun was gone.
J'ai cherché dans ma poche, mais l'arme n'y était plus. J'avais dû la perdre en enterrant mes mots, plus loin sur la route.
It's okay, the boy said at last.
Ça va, a dit le garçon, enfin.
I forgive you.
Je te pardonne.
Then he kissed me. As if returning a porcelain sword to my cheek.
Puis il m'a embrassé, comme s'il replaçait un éclat de porcelaine dans ma joue. Tremblant, je me suis tourné vers lui. Je me suis tourné, et j'ai trouvé, froissé dans l'herbe, le t-shirt rouge fané. Je l'ai posé sur mon visage et suis resté parfaitement immobile, comme ma mère, à la fin.
Then it came to me.
Et puis, ça m'est venu.
My life.
Ma vie.
I remembered my life.
Je me suis rappelé ma vie, comme la poignée d'une hache, en plein vol, se rappelle l'arbre. Et j'étais libre.
And I was free.
J'ai découvert Ocean Vuong un peu par hasard. J'étais attiré par le titre de son roman, Un bref instant de splendeur. J'ai trouvé que c'était un titre très poétique pour un roman. Et j'ai lu les quelques premières pages de ce roman et j'ai tout de suite été emporté par la poésie qu'il y avait dans le roman. Et donc j'ai pas été étonné de retrouver par hasard encore en librairie en 2022 ce recueil de poésie, Le temps est une mer. Voilà, et donc encore la figure de la mer, qui est une figure qui m'intéresse aussi, hein, je crois comme beaucoup d'écrivains, mais qui est une figure qu'on retrouve dans mes deux romans également. Et donc j'ai retrouvé le rythme et la beauté de sa langue, même si c'est une langue traduite, hein, alors bravo aux traducteurs, parce que traduire de la poésie, c'est toujours compliqué, mais je crois que sa force, c'est la dimension évocatrice de son écriture. Et donc voilà, il y a aussi, je pense, tout un univers qui me parle, un univers très, années 90. J'adore l'idée qu'on puisse parler d'un t-shirt Tortue Ninja dans un poème. Ça, tout de suite, je trouve ça rafraîchissant et ingénieux. Puis en même temps, c'est bouleversant, parce que quand on prend les phrases les unes après les autres, on est déjà touché par la beauté de la langue. Et puis après, quand on essaye de décrypter l'image, l'idée, le propos, on est pris par l'émotion.
C'était l'instant poésie de Gaël Faye, à retrouver sur franceculture.fr, l'application Radio France et sur l'Instagram de France Culture avec chaque soir une illustration originale.
Écoutez France Culture, dernière partie de votre rendez-vous avec la fiction. Du lundi au vendredi, 20 minutes dédiées à la lecture sous toutes ses formes. Pages arrachées, lecture simple ou musicale. Vous y entendrez des textes variés, portés par des grandes voix de comédiens et d'écrivains. Les lectures du soir alterneront entre archives et création de nouvelles formes. Tout de suite, lecture du soir.
Page d'arraché à David Goudis par Patrice Gauthier. Roman choisi, La Garce. Invité, Cyril Gaudin. Cyril Gaudin, vous avez choisi La Garce, qui est le troisième roman de Goudis, qui vient après Cauchemar, un de ses romans les plus célèbres. Je vous ai vu jouer, vous êtes comédienne, je vous ai vu jouer dans Les Bonnes. Vous m'aviez fait un peu froid dans le dos, comme ça. Et alors, vous avez choisi La Garce. Pourquoi ?
Ça fait un peu froid dans le dos. Cela dit, tous les romans de Goudis font froid dans le dos, en général, je trouve. C'est assez étonnant, quoi. C'est-à-dire à quel point, dans ce roman, une femme peut foutre en l'air la vie de tous les gens qui l'entourent, quoi. Mais tout ça dans la plus grande simplicité, c'est-à-dire personne s'en rend compte. Et elle manipule, elle détruit autour d'elle, c'est étonnant.
Comment Goudis fait passer cette angoisse dont vous parlez ?
C'est très subtil, il faut vraiment le lire pour se rendre compte à quel point tout est apparemment très très léger et plein de petits détails apparaissent. C'est vraiment comme un feu d'artifice qui enfonce dans un drame où on ne pourra jamais s'en sortir, quoi. C'est-à-dire un labyrinthe épouvantable, parce qu'il y a des personnages qui sont souvent très très malléables, très gentils, très, et qui se laissent complètement envahir par des gens ou des événements, quoi. C'est très, très subtil.
Dans le passage que vous avez choisi, il y a un registre un peu double.
Ouais.
Et est-ce que ça vous touche en tant que comédienne? Bon, bien sûr, mais enfin, même dans la vie. C'est-à-dire ce que je crois être le côté schizophrène de Goudis. Oui.
Il y a toujours un déséquilibre, et ça, Goudis le rend très très bien. C'est-à-dire qu'on passe toujours d'une chose à l'autre, où les pensées sont rarement en accord avec ce qui se passe à l'extérieur, où les pensées sont même rarement en accord avec ce qui se fait après. C'est-à-dire les gens pensent quelque chose souvent et sont obligés de faire autre chose. Alors sinon, dans le début du passage, et ça c'est très typique dans tous les romans que j'ai lus de Goudis, c'est que les emmerdeuses sont toujours plantureuses, sexy, très belles, très maquillées, mais à la limite repoussantes, mais on les sent plantées dans la terre. Et alors les femmes qu'on aime et qui sont douces sont toujours un peu maigrichonnes, parfois alcooliques d'ailleurs aussi. Elles sont pas pures, hein. Il y a dans Cassidy's Girl, par exemple, il veut vivre avec une petite fille, toute maigrichonne, très gentille, qui boit un petit peu beaucoup, un peu trop. Mais cette vision de la femme très plantureuse est très, 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 très présente dans tout Goudis, je trouve. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais...
Les voisins avaient encore une scène de ménage, à 2 heures du matin. Entr'ouvrant les yeux, George Ervin lut l'heure sur le cadran lumineux de son réveil. Ervin, 47 ans, statisticien, travaillait dans l'une des banques d'investissement de Walnut Street. De taille moyenne, son poids excédait cependant légèrement la normale. Jusqu'à une date récente, ses cheveux avaient été très bruns. À présent, sa chevelure était striée de blanc, s'étant argenté. Jusqu'à une date récente, sa peau avait été très hâlée. Ervin, jadis, avait pris l'habitude de se promener à pied. Il jouait au golf le dimanche et le samedi après-midi exposait son visage au soleil dans les tribunes découvertes du stade. Il aurait aimé poursuivre toutes ses activités, mais il avait dû les cesser. Son teint aujourd'hui était devenu pâle et cireux. Son visage, sillonné de lignes et de rides, demeurait maigre, bien qu'il prît du ventre un peu plus chaque jour. Il contempla les chiffres verts luminescents sur le cadran du réveil. La chambre tout autour était plongée dans une obscurité complète. Une chambre d'un noir absolu, témoin d'un étrange débat intérieur, pris entre le raffut qui se déchaînait dans la maison voisine et la respiration profonde et satisfaite de Clara, la seconde épouse d'Ervin. Ervin écoutait les cris de ses voisins. Il entendait tout très distinctement car il habitait une rangée de maisons contiguës. Un simple mur mitoyen séparait les demeures et les engueulades familiales. Ervin entendit Mr. Kinnett dire « Je vais te fendre le crâne, tu sais. Tu as toujours eu assez à manger, non ? Tu as toujours trouvé un toit au-dessus de ta tête. Le gosse a eu tout ce qu'il voulait, hein ?»« Je te crois, » hurla Mrs. Kinnett. « Le gosse a eu tout ce qu'il voulait, mais il n'a jamais rien voulu. Quand tous les gosses de cette rue avaient leur bicyclette, qu'est-ce que le nôtre avait ?»« Tu me reproches toujours la même chose, » répondit Mr. Kinnett. « Tu sais parfaitement que je n'avais pas les moyens de lui payer ce vélo. Tu te rappelles quand c'était ? Fais un petit effort de mémoire. Souviens-toi, c'était en 1929. Tu te souviens ce qui s'est passé en 1929 ?» Ervin se rappelait l'année 1929. Il ne s'était jamais livré à d'importantes spéculations financières. Non qu'il fût contre, mais il ne possédait pas les fonds nécessaires. Apparemment, bien qu'il n'eût pas de goût de luxe prononcé, il s'était toujours arrangé pour dépenser tout son argent. Ce fait l'amusait vaguement. Gagnant sa vie comme expert en statistiques, il était très attentif aux tendances et aux variations boursières, mais dès qu'il s'agissait de sa propre situation financière, il ne se révélait pas un homme avisé. Il dépensait sans aucune étude préalable. Il achetait tout ce qu'il voulait, tout ce que Julia, sa femme, voulait, et tout ce qu'Evelyne, leur petite fille, voulait. Aussi, parce qu'il n'avait pas grand-chose à perdre, la crise de 1929 ne l'avait pas durement frappé, du moins sur le plan financier. Car en 1929, il avait perdu Julia. Elle ne s'était pas inquiétée suffisamment tôt d'une douleur au ventre. Une péritonite s'était ensuivie. Elle était morte. Erwin retrouva les hommes qui avaient perdu toute leur fortune. Il en vit qui marmonnaient et qui se lamentaient sur leur sort. Il en vit qui pleuraient. Il vit même un homme se diriger en chancelant vers une fenêtre au 11e étage d'un immeuble de bureau, au centre-ville, et s'évanouir avant de l'atteindre. Erwin observa le comportement de tous ces gens-là. Il poussa un profond soupir et, devant une telle confusion, secoua la tête. C'en était trop pour lui. Il était très fatigué. Il aurait voulu pouvoir s'endormir et ne pas se réveiller avant plusieurs années. Il avait 26 ans lorsqu'il épousa Julia. Elle en avait 20. C'était une petite fille tranquille, toute menue, presque jolie, mais trop timide cependant pour songer à mettre sa beauté en relief. Elle avait une chevelure brune, très brillante. Bon, il s'était toujours répété qu'il ne devait pas s'attacher à quelqu'un. De toute façon, il ne gagnait que 22,5 $ par mois, et sa famille ne pouvant pas lui venir en aide, la vie serait très difficile. Il regarda autour de lui, constata que tout le monde était marié et pensa qu'il y avait peut-être là quelque chose qui le dépassait. Bien que la raison essentielle fût des plus évidentes, il ressassa continuellement les mêmes pensées et resta éveillé de nombreuses nuits à chercher des objections à formuler. Le mariage était un choix sérieux auquel il fallait mûrement réfléchir, qu'il fallait étudier sous tous ses aspects. Et pourtant, son sentiment pour Julia était quelque chose qui ne pouvait se réduire à ces formules mathématiques que sont le mariage et le fait de vivre toute une vie avec une femme. Son sentiment pour Julia était une chose belle et pure, à laquelle toute considération pragmatique était étrangère. Mais il ne sentait aucun élan, aucune force intérieure dans son sentiment pour Julia. Et Erwin avait peur. Il ne voulait être lié à personne. Deux ans après son mariage avec Julia, il avait investi dans une société qui lançait sur le marché un gadget pour cuisine. Cela s'avéra une assez grosse affaire. Erwin empocha une somme importante et paya comptant l'une de ses maisons à coller construites dans un quartier neuf de la ville. Ce n'était pas exactement la banlieue, mais la chaussée avait cette teinte blanche caractéristique des banlieues. Il y avait des espaces verts, ici et là, et une petite pelouse soigneusement tondue s'alignait devant chaque maison. La rue, revêtue d'un asphalte lisse, était plus large que les rues du centre-ville et beaucoup plus propre. Georges et Julia étaient heureux dans leur petite maison. Ils y vivaient tranquilles. Parfois, pris d'un soudain accès d'exaltation, ils partaient passer le week-end au bord de la mer. C'était merveilleux de savoir qu'ils partiraient ensemble, qu'ils reviendraient ensemble. C'était merveilleux d'être ensemble, toujours ensemble, la nuit, l'hiver, dans la chaleur de leur petite maison. Ils avaient tellement d'activités communes. Ils jouaient aux échecs, ils appréciaient les mêmes programmes radiophoniques, c'est ce qu'ils s'étaient avoués. Et ils s'étaient avoués aussi qu'ils aimaient les mêmes films, les mêmes mets. Quand ils se disputaient, le plus souvent, ce n'était pas vraiment une dispute. C'était plutôt un mélange de cajolerie et d'éclat de rire, avec peut-être par-ci par-là un zeste de pleurnicherie. Ils n'avaient pas beaucoup d'amis. C'était des gens tranquilles. Les gens tranquilles n'additionnent jamais les amis et ne se soucient pas de les additionner. Vraiment, ils n'éprouvaient pas le besoin d'avoir des amis. surtout après la naissance d'Evelyne. À eux trois, ils formaient un petit monde. Georges était si heureux que parfois, lorsqu'il songeait à sa petite femme et à sa petite Evelyne, les larmes lui venaient aux yeux. Et chaque soir, lorsqu'il rentrait à la maison, après son travail, il était envahi d'un sentiment de félicité incommensurable. Julia mit au monde un autre bébé, qui mourut quelques jours après sa naissance. Julia fut sur le point de s'effondrer, et Georges connut avec elle des moments très pénibles. Il voulait qu'elle ait un autre enfant, mais elle s'y refusait. Elle alléguait qu'il pouvait mourir. Elle commença à avoir des crises de larmes par intermittence. Elle disait qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de la mort, que si elle avait un autre bébé et qu'il mourait, elle mourrait aussi. Ce genre de propos exaspérait Georges, mais lorsqu'il s'abandonnait à sa colère, Julia se mettait à pleurer. Il lui tapotait l'épaule et se répétait, en son fort intérieur, que sa femme était une froussarde, une pauvre petite froussarde, si douce, si gentille, si fragile, si précieuse. Dans la maison voisine, Mr. Kinnett était en train de dire « Et toute ta sainte famille ! Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma famille ? Des tas de choses ! Quoi ?» demanda Mrs. Kinnett. « Cite-moi une seule saloperie que ma famille t'ait jamais faite. Toi, pour ce que tu viens de dire, je voudrais que tu meures là, devant moi. Je vais te dire quelque chose, » hurla Mr. Kinnett. « Et je veux que tu te l'enfonces bien dans le crâne. La prochaine fois qu'un membre de ta famille essaiera de m'entraîner dans une combine financière, je lui jetterai tous ses papiers à la figure. Et si ça ne te plaît pas, toi, je te fous dehors. » Mrs. Kinnett se mit à pleurer. Elle dit, « Si je pars, Barry viendra avec moi. Mon fils Barry ne me laissera pas crever de faim. Qui t'a laissé crever de faim ? Est-ce que je t'ai jamais laissé crever de faim ? Si je pars, annonça Mrs. Kinnett, mon fils viendra avec moi. Il ne me laissera pas mourir dans la rue. Il saura qu'il doit prendre soin de sa mère. Même si, un jour, il devait tomber dans le ruisseau, il ne laissera jamais sa mère dans le besoin. Oh, ferme-la ! Mon fils ne me laissera jamais mourir dans la rue. Il ne me quittera pas, il restera avec sa mère, parce qu'il sait qu'elle a toujours été une bonne mère pour lui. Elle s'est occupée de lui depuis qu'il est un tout petit bébé. « Attends-moi ici !» cria Mr. Kinnett. « Je fonce te chercher une médaille. Tu parles tellement qu'on dirait que t'es une crétine. Tu n'as vraiment aucune cervelle. Je suis prêt à parier que t'as jamais dépassé la maternelle. T'es qu'un sale menteur, t'es qu'un sale menteur. Arrête de brailler !» cria Mr. Kinnett. « Que Dieu me damne si je mens. Je te préviens que si tu la fermes pas, vas-y, tue-moi !» Pourquoi tu ne me tues pas ? Pourquoi tu ne débarrasses pas de moi ? On l'a déjà fait avant. Coupe-moi en morceaux et enferme-moi dans une malle. Maintenant, écoute-moi, dit Mr. Kinnett. Continue à parler comme ça et je te fous mon poing dans la gueule. Vas-y, bats-moi, tue-moi. Coupe-moi en morceaux et enferme-moi dans une malle. Je m'en fiche. Qu'est-ce que j'ai jamais eu dans la vie ? De toute façon, cette maison, j'ai tenu propre cette maison jour après jour, avec mes mains et mes genoux. Je frotte les parquets, je lave la vaisselle et je me ronds le dos au-dessus du bac à laver. Et pourquoi ça ? Pourquoi j'ai pas une fille pour m'aider dans les travaux ménagers ? Ben, as-tu perdu la tête ? Tu en as une ? Je veux dire une bonne, qui serait là tout le temps. Pas une petite demeurée qui vient après la classe se fourrer dans mes jambes et contemple les murs. L'autre jour, je lui ai demandé de préparer la salade et au lieu de prendre l'huile de salade, elle s'est servie de celle de la machine à coudre. Si je n'avais pas goûté le plat avant de dîner, on serait tous à l'hôpital à l'heure qu'il est. Je peux plus le supporter. Ah, je voudrais être morte. Et moi, je voudrais que tu fermes ta sacrée gueule. Mrs. Kinnett désormais pleurait à chaudes larmes. Le son de ses pleurs était irrégulier, tantôt fort, tantôt faible, comme si elle marchait de long en large dans la pièce. Ses sanglots ayant atteint leur point culminant, elle s'arrêta de pleurer et dit « Tu sais, Barry est un garçon très bien. Il travaille dur, il est sérieux dans ses études. Un jour, il sera un garçon important. Et il est intelligent, c'est un cerveau. Il tient de moi, sa mère. C'est un brave garçon, mon Barry. » Erwin fixait l'obscurité. Il se souvenait de la façon dont Julia, d'ordinaire, posait ses lèvres contre ses cils. Il avait alors l'impression que de doux pétales de fleurs d'oranger tombaient lentement de ses yeux. Il se souvenait de la façon dont elle lui parlait la nuit. Sa voix flottait dans les airs. Ses paroles devenaient de moins en moins audibles à mesure qu'elle succombait au sommeil. mais elle continuait à parler. Et au bout d'un moment, les phrases qu'elle prononçait perdaient toute cohérence. Elle parlait tout bas, sa voix plus faible encore qu'un murmure. C'était comme une berceuse sans musique, et Georges se surprenait à mettre en forme les phrases ravissantes et merveilleuses que Julia prononçait dans son demi-sommeil. Là, dans l'obscurité, il l'écoutait attentivement. Il n'entendait rien d'autre, pas même le vacarme de ses voisins. Il se rappelait maintenant. Il se rappelait cette nuit, 3 ans après la mort de Julia. Il était resté éveillé et s'était imaginé qu'elle lui parlait. Il se souvenait maintenant de la façon dont ça s'était passé. D'abord, il avait eu très peur. Il avait jailli hors du lit, avait allumé la lumière et pendant un moment, dans la pièce calme, son corps avait été parcouru de frissons. Puis il s'était rendu dans la salle de bain, avait bu un verre d'eau. Il était revenu dans la chambre, avait éteint la lumière et prudemment était remonté dans le lit qu'il partageait jadis avec Julia. Durant quelques instants, le calme régna. Puis elle recommença à lui parler. À nouveau, il fut très effrayé. Il s'efforça de surmonter sa frayeur, car il était sûr désormais que quelque part, Julia lui parlait. Il voulait entendre ce qu'elle avait à lui dire. Elle lui demanda des nouvelles d'Evelyne. Tout se passait bien avec Evelyne? Comment Evelyne travaillait-elle en classe? Surveille ses études? Assure-toi qu'elle se brosse les dents au moins 2 fois par jour. Agnès était-elle toujours leur employée ou avait-il une nouvelle bonne? Elle le pria d'être très attentif. Ce qu'elle allait lui dire maintenant était le plus important. Ce qu'elle allait dire le concernait, lui, sa santé. Ses problèmes rénaux étaient-ils résolus? Souffrait-il toujours de maux de tête? Il y avait peut-être d'une façon ou d'une autre un lien entre ses maux de tête et ses problèmes rénaux. Si son médecin traitant ne pouvait rien pour lui, il faudrait prendre un rendez-vous avec un grand spécialiste. Sinon, comment se sentait-il? Prenait-il réellement soin de sa santé? Il n'allait pas traîner le soir, n'est-ce pas? Non pas qu'elle trouvât ça mal sur le plan moral, mais ça ruinerait sa santé s'il allait traîner. Il devrait se trouver une femme bien et se remarier. Julia répéta la phrase.
Page arrachée à David Goudis, par Patrice Gauthier. Aujourd'hui, La Garce. Invité, Cyril Godin. Mixage, Jean Frédérics. Assistante, Hélène Morel. Réalisation, Jacques Taroni.
Vous êtes bien sur France Culture. On termine la semaine avec 2 expositions, GB, un génie du dessin de presse à la BNF, et Maximilien Luce, l'instinct du paysage au musée de Montmartre.
Marie Laborie.
Et puis je recevrai le cinéaste Robin Campillo pour Enzo, dont il a poursuivi la réalisation après le décès de Laurent Canté.
Les midis de culture, demain à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le souffle de la pensée. Ce vendredi, la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant.
Géraldine Mosna-Savoie.
Lorsque Kant publie la critique de la faculté de juger, il a 66 ans et s'est déjà attaqué à la connaissance et à la morale. La beauté sera le centre de cette nouvelle critique. Véritable déclic pour le philosophe Michael Fossel, il vient nous révéler la portée de ce classique à la réputation difficile.
Le souffle de la pensée, chaque vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Quel est l'impact du numérique sur notre cerveau? Grâce à des expériences sonores à mener en temps réel, vous allez explorer la façon dont fonctionne votre cerveau face aux écrans. Séverine Herrel, chercheuse en psychologie cognitive.
Quelques études scientifiques montrent que quand les élèves multitâchent avec différents médias, ça peut vraiment